Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Ventoux-Sperber. Les universités américaines, privées et publiques, en quoi sont-elles exemplaires ? Le rôle de l'enseignement supérieur dans le progrès des sociétés est aujourd'hui acquis. Facteur de richesse, mais aussi de cohésion et de progrès social, l'activité universitaire est malheureusement encore mal connue en France. Elle suscite souvent inquiétudes et doutes, et les crises qui secouent régulièrement la vie universitaire ne font qu'accroître ce sentiment. Les universités américaines s'imposent aujourd'hui sans conteste et largement sur la scène internationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais quelles sont-elles ? À quoi est due une si remarquable réussite ? En quoi l'université américaine est si exemplaire qu'on le dit ? Surtout, quels sont les principes, éducatifs bien sûr, mais aussi sociaux et moraux, qui inspirent leur fonctionnement ? Il va de soi que les universités américaines sont très différentes entre elles, très différentes aussi des universités britanniques auxquelles on les compare souvent. Mais cependant, elles ont suffisamment de traits communs, résultat de l'histoire et des traditions culturelles, pour qu'il vaille la peine de les analyser. Merci Christine Musselin d'être avec nous pour cette émission de questions d'éthique consacrée aux universités américaines et à ce qu'elles incarnent comme modèle social, politique, intellectuel bien sûr, mais aussi moral. Vous êtes directrice du laboratoire CSO, Centre de Sociologie des Organisations, Sciences Po, CNRS, et vous avez écrit de nombreux livres consacrés aux universités, surtout peut-être aux universitaires, en particulier les universitaires, aux éditions La Découverte et Le marché des universitaires, France, Allemagne, États-Unis, paru aux presses de Sciences Po. On considère aujourd'hui que les universités américaines, du moins c'est l'opinion commune que l'on en a en France, sont très largement privées, difficiles d'accès, sélectives et extrêmement coûteuses. Est-ce que la réalité est conforme à cette image ? Et pour exprimer les choses plus brutalement encore, est-ce qu'un jeune homme ou jeune fille, sans beaucoup de moyens matériels, doué et travailleur, peut réussir à atteindre les plus prestigieuses universités américaines ?
Je crois qu'à la deuxième question, on peut répondre oui, en particulier si cette jeune personne talentueuse veut accéder à un programme doctoral. C'est à ce niveau-là que l'on trouve le plus d'étudiants étrangers et que l'accès à l'enseignement supérieur américain est peut-être le plus difficile, mais en même temps le plus prestigieux. À la première question, la place des universités privées dans le système américain, je crois qu'on oublie trop souvent qu'elles ont un rôle en termes de prestige extrêmement important, mais qu'en termes de formation du nombre d'étudiants, elles ont un rôle assez limité. Plus de 75% des étudiants américains fréquentent des universités publiques.
Alors, arrêtons-nous sur cette notion d'université publique oui. aux États-Unis. Cela veut-il dire des universités qui dépendent de l'État fédéral ou bien des universités qui dépendent de l'État, c'est-à-dire l'État de Californie et l'État de New York ? Il n'y a pas d'université fédérale aux États-Unis.
Non, il n'y a pas d'université fédérale.
Donc c'est soit privé, soit public, mais au sens de public à l'intérieur d'un État. État de Californie, État de New York, État d'Illinois, de Michigan.
Mais avec à chaque fois des modes d'organisation assez différents, des principes assez différents. D'ailleurs, il est très difficile de faire une description uniforme du système américain pour ces raisons-là. Chaque État à ses principes, ses règles du jeu, ses modes de pilotage des campus. Alors, l'exemple qu'on connaît le mieux, c'est certainement l'université californienne, mais il y a d'autres modalités de fonctionnement des systèmes publics américains. Et ce sont quand même eux qui accueillent le plus grand nombre d'étudiants.
75%, en effet, c'est considérable. Oui. Et que signifie être une université publique? Ça veut dire que la gouvernance de l'université est sous le contrôle de l'État, État de Californie ou État de New York, selon les cas. Cela veut dire qu'une partie plus importante du budget dépend de l'État dans lequel l'université est installée. Qu'est-ce que cela signifie? Ou que l'université a des missions particulières, étant donné sa localisation dans... et sa dépendance à l'égard d'un État. Que signifie exactement être une université publique aux États-Unis, Christine Mussin?
Il y a effectivement des missions particulières, en partie, plus précisément le fait que ces universités vont accueillir par exemple les étudiants de l'État, que des tarifs particuliers, des droits d'inscription particuliers sont appliqués à ces étudiants. Donc, des droits qui sont moins élevés que pour des étudiants venant d'autres États. Elles ont effectivement aussi une mission publique qui est plus affirmée. Et les modes d'attribution des budgets entre les établissements d'un même État vont être effectivement régulés par une instance au niveau de l'État qui va décider des moyens d'allocation, enfin de la répartition des moyens, des critères d'allocation que l'on va utiliser. Et l'État peut aller jusqu'à fixer le montant des droits d'inscription, peut aller jusqu'à imposer que les droits d'inscription soient les mêmes dans tous les établissements publics d'un même État. Donc, ce n'est pas un contrôle au sens d'un contrôle étatique à la française, tel qu'on le connaît entre les universités françaises et le ministère. C'est assez éloigné de ça, mais c'est quand même une relation de dépendance vis-à-vis de l'État. Oui.
Et certaines de ces universités sont extrêmement prestigieuses.
Ah oui, bien sûr.
Berkeley, par exemple, qui est le vaisseau amiral de l'University of California, est une université extrêmement prestigieuse et qui, dans certains domaines, concurrence largement Harvard et Stanford. Buffalo, l'université de l'État de New York aussi, dans certains domaines, est tout à fait admirable. L'université de Michigan, Ann Arbor aussi, dans d'autres domaines, est une université tout à fait remarquable. Donc, des universités publiques qui sont dans la même course, au fond, d'excellence que des universités privées. Est-ce qu'on peut en déduire que l'université américaine, le système dans son ensemble, est une université de l'égalité des chances, au fond?
Voilà, vaste question. Tout d'abord, ce que je voudrais dire peut-être, c'est qu'il est vrai qu'il reste de très grandes universités publiques qui sont tout à fait à la hauteur des universités privées américaines, mais que l'écart quand même se creuse. C'est-à-dire que quand on regarde les classements des établissements américains et leur évolution dans le temps, on voit de plus en plus certaines universités privées au sommet du classement et les universités publiques, même de très grand renom, ont de plus en plus de difficultés à rester en tête. Donc il y a quand même un écart qui se creuse. Je pense qu'il est significatif de voir que récemment, plusieurs colloques ont été consacrés à la crise des universités publiques, et cela même avant la crise économique et financière que nous connaissons au niveau mondial.
Mais une égalité a été rétablie en raison de la crise violente qui a frappé les dotations, les endowments des universités
Je ne suis pas sûre que cela aille exactement dans ce sens-là, étant donné que les États ont aussi réduit leur budget. Parce que dans le côté public, dans la caractéristique publique de ces universités, il y a effectivement le fait qu'elles reçoivent un budget de l'État dont elles dépendent. Pour autant, la grande majorité de leur budget dépend là aussi de fonds privés. Les étudiants des universités publiques payent aussi des droits d'inscription qui peuvent être pas aussi élevés que dans les universités privées, mais qui sont quand même aussi conséquents.
De l'ordre de 3 000 $, 3 000, 4 000 $.
Ça peut être bien plus que ça.
Tout dépend de la qualité des universités, bien sûr. Alors, vous parliez du budget qui est plus important pour les universités publiques, budget qui vient de l'État où elles sont situées. Mais il reste que le budget d'une université d'État ou d'université publique est plus équilibré, au sens où il y a une multiplicité de sources plus large que dans une université française, parce qu'il y a aussi de l'argent fédéral. L'État fédéral finance les universités indirectement par la recherche,
par le financement de la recherche
en réponse au projet. Et ça, c'est la même chose pour les universités privées Et les universités publiques, les équipes de recherche ou les universités sont éligibles à ces fonds fédéraux. Mais une université privée comme Berkeley, publique comme Berkeley, qui dépend de l'État de Californie, a également des revenus privés qui viennent de ses contrats de recherche
bien
ou
sûr,
des partenariats qu'elle a avec le tissu industriel local.
Et des droits d'inscription, encore une fois.
Et bien sûr, des droits d'inscription. Donc, dans une université publique comme Berkeley, le financement par l'État représente environ quel pourcentage?
Autour de
40%.
Je n'ai pas idée du pourcentage exact que cela représente, mais on pourrait faire exactement la même opération pour les universités privées. Plusieurs chercheurs ont montré l'importance des fonds publics, comme vous le disiez, à travers le financement de la recherche et des contrats qu'elles réussissent à décrocher au niveau fédéral. Le poids du public dans les universités privées est également relativement important finalement. Du moins, je pense certainement abandonner l'idée d'universités qui fonctionneraient comme des entreprises ou qui auraient une mentalité d'entreprise, parce qu'elles sont justement d'abord animées par des missions publiques. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée quand j'ai travaillé aux États-Unis et que j'ai fait des entretiens aux États-Unis, c'est que dans des universités privées, on a le sens de ce qu'est une université, du rôle que tient une université dans la société. Et c'est bien sûr avoir des contacts avec cette société, c'est bien sûr être à l'écoute des demandes de la société, mais c'est aussi rendre des services à cette société. Et ça, c'est très impressionnant d'entendre ce type de déclaration.
Certainement, et c'est une opposition de plus avec l'organisation française, car les universités françaises et d'ailleurs beaucoup de grandes écoles sont liées à l'État, très étroitement liées à l'État, beaucoup à l'État central et à l'État national. Mais elles sont en revanche assez peu liées à la société. Elles ont peu de rapports avec la société. Tandis que les universités américaines donnent le sentiment d'être véritablement une force sociale parmi d'autres, d'être totalement inscrites dans le tissu social. Est-ce que ce sentiment est vérifié et fondé selon vous?
Oui, je pense qu'effectivement, comme je disais précédemment, le fait qu'il y ait ce sentiment de devoir rendre un certain nombre de services à la société, les relations que l'on entretient avec des partenaires à l'extérieur de l'université, les trajectoires croisées qu'ont beaucoup de professeurs américains entre l'université et l'entreprise. Bon. Ce n'est pas le cas de tous les enseignants-chercheurs, bien évidemment, mais on trouve beaucoup plus de trajectoires croisées qu'en Europe de manière générale, il n'y a pas qu'en France. Donc tout ça fait que les universités sont beaucoup plus insérées dans le tissu sociétal qu'en Europe en général,
Et grande partie de leurs dotations ou de leurs capitaux viennent aussi des dons de la société.
Exactement.
Elles sont entourées par un réseau d'anciens élèves qui, en quelque sorte, les inscrivent de manière répétée dans la société américaine. Mmh. Il est très difficile de trouver l'équivalent de cela en France, qu'il s'agisse d'universités ou de grandes écoles, en dépit du fait que le sentiment d'appartenance y est extrêmement forte.
Je pense que là aussi, la relation aux étudiants est extrêmement différente, que l'écoute vis-à-vis des demandes des étudiants est beaucoup plus forte aux États-Unis. On pourrait parler presque d'une demande des étudiants qui va influencer le cursus et le programme de cours. C'est quelque chose qui est aussi relativement peu développé du côté européen.
Alors revenons au statut de ces universités publiques qui dépendent des États, par exemple l'Université de Californie qui est sans doute la plus prestigieuse. Quand les universités sont publiques, cela signifie-t-il que tous les diplômes délivrés par ces universités dans un même État se valent? Et connaît-on le système de péréquation d'équivalence des diplômes, qui est une des caractéristiques fortes, par exemple, de l'organisation française, Christine Musselin?
Non. Bien évidemment, chaque établissement est libre de décider du contenu de ses programmes pédagogiques et des modes de validation des acquis des connaissances par les étudiants. Et les diplômes, effectivement, sont ceux de l'université et ne sont pas ceux du système public dont dépendent les universités publiques sur un état donné. Mais je vous fais remarquer que malgré tout, en France, on a eu beaucoup de relâchement de cette notion de diplôme national au cours des dernières années. On sait très bien de toute façon qu'il n'y a jamais eu véritablement d'équivalence entre les diplômes, même si elles existaient sur le papier. Et on est de plus en plus quand même dans un régime où chaque établissement peut avoir ses propres... peut-être pas ses propres diplômes, on reste avec une notion de diplôme national, mais en tous les cas, les contenus sont beaucoup moins uniformes qu'ils ne l'ont été par le passé.
Mais c'est une évolution que beaucoup réprouvent. L'expression communément utilisée d'université à deux vitesses le montre suffisamment.
Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui a du mal à s'imposer en France. Je crois que on passe... l'idée qu'on avait des universités qui étaient toutes équivalentes, que les enseignants-chercheurs étaient aussi équivalents, donc qu'un professeur dans l'université X était équivalent au professeur dans l'université Y pour une discipline donnée, que les cursus étaient équivalents les uns avec les autres, est une idée qui progressivement est en train de disparaître, mais avec beaucoup de résistance, effectivement, puisque on est quand même, l'enseignement supérieur français s'est quand même développé sur la base d'un système national qui devait être équivalent sur l'ensemble du territoire. Et on peut se demander aussi quelles seront les conséquences d'un système qui sera plus diversifié. Je ne sais pas s'il sera deux vitesses, ou en tous les cas, plusieurs vitesses.
C'est évidemment un sujet très important qui mériterait que nous puissions consacrer une autre émission de questions d'éthique aux universités françaises. Mais revenons au système américain. Ce qui le caractérise est une très grande différenciation entre les établissements, une constante émulation, évitons le terme de concurrence ou de compétition, mais en tout cas une constante émulation, grande diversité, grande émulation. Est-ce que cela a pour conséquence le fait que le système universitaire américain est plus difficile d'accès ou qu'il est fréquenté par beaucoup moins d'étudiants qu'en France, par un pourcentage moins élevé d'étudiants en France?
L'accès à l'enseignement supérieur américain est plus large et depuis longtemps qu'en France, puisque après le GI Bill, juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une vague de massification de l'enseignement supérieur américain qui s'est produite finalement bien avant les vagues de massification qu'on a pu connaître en Europe, en France dans les années 60, et parfois très tardivement en Grande-Bretagne, par exemple, dans les années 90 seulement. Donc, on a une ouverture très forte du système d'enseignement supérieur américain. On a à peu près 64% d'une classe d'âge qui accède à l'enseignement supérieur. Mais il est bien évident qu'on n'a pas 64% d'étudiants qui vont à Harvard ou à Princeton ou à Stanford. Donc la différenciation permet justement peut-être d'avoir un accès plus large, mais un accès extrêmement différencié. Il est certain qu'avoir accès à un collège à 2 ans au niveau local, pratiquement sans sélection et sans commune mesure avec l'accès que l'on peut avoir à un premier cycle dans une université prestigieuse, que les conditions d'enseignement ne seront absolument pas les mêmes, que les taux de réussite sont extrêmement variés aussi selon le type d'établissement auquel on accède. Dans les collèges à 2 ans, nombre d'étudiants sont d'origine sociale quand même défavorisée. La plupart, une grande majorité d'entre eux, travaillent en dehors de leurs études. Donc on retrouve des conditions qu'on connaît quand même assez bien de ce côté-ci de l'Atlantique pour les étudiants, mais qui ne sont bien sûr pas celles que l'on va retrouver dans les universités les plus prestigieuses. Et pour rentrer dans ces universités prestigieuses, les barrières là sont extrêmement élevées et très difficiles à franchir.
Il reste que c'est un système extrêmement différencié, avec une différenciation entre le niveau des établissements, leur qualité, leur prestige, tout à fait assumé, reconnu, publiquement diffusé. Ça fait partie, ce sont des éléments importants dans les choix des étudiants, mais une université telle que ce système de différenciation ne vaut pas du tout comme moyen d'exclusion. Au contraire, c'est une université plus ouverte. Elle accueille sans doute un pourcentage d'étudiants plus élevé que ce n'est le cas en France.
Disons que le système dans son ensemble accueille un pourcentage d'étudiants plus élevé. L'accès aux meilleurs établissements reste quand même extrêmement sélectif. Alors, il est vrai qu'il y a tout un ensemble de dispositifs qui sont mis en place par ces établissements, en particulier dans les universités privées, pour ne pas faire des problèmes financiers une barrière à l'entrée. Donc, on parle toujours des taux des droits d'inscription qui sont à peu près $35,000, par exemple, pour Harvard par an. Il est bien évident qu'un étudiant venant d'un milieu social difficile ne paye pas ces 35,000 euros.
Oui, mais un étudiant très brillant qui commencerait dans un community college, dans une formation à 2 ans et qui ferait preuve de son talent, aurait des passerelles pour rejoindre un collège et ensuite l'université la plus prestigieuse avec une bourse.
Elles existent, effectivement, elles existent.
Donc il y a peut-être
pas non plus surestimer le fait, le pourcentage de gens qui en bénéficient.
Il y a quand même tout lieu de constater qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas de passerelle entre les systèmes élitistes qui se décident en particulier par la filière des classes préparatoires dès la fin de la terminale et les autres systèmes. Les voies de passage n'existent pas, tout simplement. Donc là, on a un système, semble-t-il, plus réactif. Mais l'important est peut-être de souligner que cette extrême différenciation des établissements n'a pas du tout pour conséquence une ségrégation accrue.
Non,
Et qui ne joue pas seulement au niveau social, mais qui joue aussi en faveur des filles, des jeunes étudiantes, qui joue aussi en faveur des minorités, des étudiants des minorités, qui sont souvent vivement encouragés à entreprendre des études supérieures.
Peut-être peut-on ajouter aussi que beaucoup d'universités ont mis en place des dispositifs pour essayer justement de toucher des populations qui, a priori, se détourneraient de l'enseignement supérieur par découragement ou en pensant que ce n'est pas pour eux et qu'on trouve beaucoup plus de dispositifs de ce type aux États-Unis que du côté de l'Europe.
Alors avant de conclure ce premier tour d'horizon, pouvons-nous rappeler, donc pour l'information précise de nos auditeurs, quels sont les trois types d'établissements supérieurs qui peuvent accueillir des étudiants aux États-Unis ?
Oui, si on reprend la classification de la Fondation Carnegie, en gros, on a donc trois catégories d'établissements. Les collèges à 2 ans, qui accueillent le plus grand nombre d'étudiants.
Donc, c'est ce qu'on appelle les community colleges.
Voilà, c'est ça, exactement.
C'est la même chose, oui.
Ensuite, il y a des formations.
Donc, 2 ans, il y en a plus d'un millier aux États-Unis.
Oui, c'est ça, oui.
Et ils accueillent une part importante des étudiants.
Oui, tout à fait. Mais il y a une grande différence entre eux. Certains sont extrêmement prestigieux et sont véritablement la première marche vers les universités les plus reconnues. D'autres sont plus orientés, sont plus professionnalisants, si on veut utiliser les termes que l'on utilise dans l'enseignement supérieur français. Et là, l'accès à l'enseignement supérieur généraliste est quand même plus difficile. Donc, il y a une grande variété au sein de ces 1000 établissements. Il y a une très, très grande variété. Ensuite, il y a les universités qui délivrent un diplôme au bout de 4 ans, sans programme doctoral.
Les collèges, donc, ce qu'on appelle les collèges, qui délivrent un diplôme de bachelor.
Voilà, exactement, en 4 ans, et qui n'ont pas de formation doctorale, donc. Hein. Et puis ensuite, il y a les universités de recherche.
Donc là, ces collèges en 4 ans, qui délivrent le BA ou BS, toutes les sortes de diplômes de bachelor qui existent. Ils sont environ 1800 et ils accueillent à peu près un peu plus d'étudiants que les collèges à 2 ans, mais un nombre encore très important d'étudiants.
Oui, c'est un nombre très important d'étudiants.
Et certains de ces collèges sont très fameux. Certains sont privés, d'ailleurs.
Voilà.
Ne sont évidemment pas publics.
Au sein de chaque groupe, il y a à nouveau une hiérarchie et une stratification très importante entre les différents niveaux. C'est-à-dire que le fait de dire qu'on est un collège à 4 ans ne signifie pas grand-chose, finalement. Tout dépend du classement, de la réputation que l'on a et ne donne pas beaucoup d'informations, finalement, sur le type d'établissement. Et puis, donc, il y a les universités de recherche qui sont, elles, les plus prestigieuses. Il y en a, alors selon les calculs, moi je dirais toujours autour de 250, voilà à peu près, qui elles délivrent des formations doctorales. On a coutume de distinguer les établissements qui ont des doctorats dans toutes les disciplines et ceux qui délivrent des doctorats dans un nombre relativement restreint de disciplines. Mais bon, toutes ont un petit peu la même philosophie, à savoir le développement de la recherche. On demande aux enseignants d'être des enseignants et des chercheurs. Et elles font effectivement partie du top.
Celles-ci se laisseraient volontiers comparer aux universités françaises qui accueillent des enseignants-chercheurs et qui sont censées permettre à leurs professeurs de faire également de la recherche. Elles sont, vous l'avez dit, au nombre de 200. Elles accueillent environ 1 million d'étudiants sur 10 millions d'étudiants dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire 10% des étudiants, c'est-à-dire une petite partie des étudiants. Donc voici un système extrêmement différencié. C'est un terme positif. Segmenté, ça c'est un terme plus négatif. Mais l'histoire a joué un grand rôle, un rôle important dans la mise en place de ce système et surtout dans la définition de ce qu'est aujourd'hui l'enseignement supérieur américain. Nous parlons des universités américaines, de leur exemplarité, de leur excellence. Vous écoutez Questions d'éthique sur France Culture, bien sûr, et mon invitée est Christine Musselin. Alors parlons de l'histoire des universités américaines, Christine Musselin, car beaucoup de choses peuvent se comprendre par l'histoire. Quel est le principe qui a inspiré la création des premières universités ou des premiers collèges aux États-Unis ?
Je crois que le point vraiment très important, effectivement, c'est de comprendre que l'histoire des établissements, enfin de l'enseignement supérieur américain, c'est l'histoire de ces établissements. Les établissements sont véritablement, comme en Angleterre d'ailleurs, le point de développement de l'enseignement supérieur américain.
Alors arrêtons-nous un instant sur ce point. Vous avez dit les établissements parce qu'en France, ce n'est pas cela. En France, ça a été lors de la recréation des universités à la fin du 19e siècle, ça a été le système national de l'université.
Oui, je crois. Enfin, il existait des universités en France avant la Révolution. La Révolution a supprimé ces universités. On ne les a pas reconstituées au cours du 19e siècle, ou du moins tout à la fin du 19e siècle. Mais finalement, l'enseignement universitaire français s'est développé bien plus autour des facultés qu'autour d'établissements. Ce qui a donné une place extrêmement importante à la profession universitaire dans le développement du système universitaire français. Aux États-Unis, les institutions priment. Sont véritablement le fondement de l'enseignement universitaire américain. Les raisons qui ont amené à la création de ces établissements, elles étaient multiples au XIXe siècle. Hein. Parfois, elles étaient confessionnelles, parfois, c'était
même au XVIIIe, le premier collège colonial d'entre eux, c'était Harvard, créé par John Harvard, le nom, en 1770.
Voilà. Et c'est souvent l'œuvre d'un homme. Donc, la mission qu'il veut développer pour son établissement imprègne très fortement ces établissements. Un de mes collègues américains, Burton Clark, qui a énormément travaillé sur les systèmes d'enseignement supérieur, a écrit un article où il parle de saga organisationnelle pour décrire justement le développement de ces universités et montrer à quel point le moment fondateur de l'établissement et les missions qui ont été développées, mises en avant par celui qui les a créées, vont à chaque fois imprégner l'histoire de ces établissements, vont continuer à fleurir autour de
Et c'est une chose qui persiste encore aujourd'hui. Oui, donc ces premiers collèges sont évidemment inspirés du modèle britannique, cela va
oui,
de soi.
Exactement.
Ils se développent rapidement, ils sont 36 en 1830 et 900 en 1900. Et ils sont gouvernés par un board, et un board qui souvent, un board c'est-à-dire une sorte de comité ou de conseil, qui souvent reflète les intérêts ou les soucis, les préoccupations qui ont présidé à la création du collège qui deviendra ensuite université. Soit les préoccupations qui étaient liées à la personnalité d'un homme qui fut le fondateur, comme John Harvard pour la première université ou le premier collège jamais créé, soit d'une communauté religieuse, car il arrivait souvent que les universités ou les collèges soient créés par des communautés religieuses.
Oui, tout à fait. L'existence du board est surtout venue des établissements privés au départ. Et là aussi, on a une sorte d'antériorité des établissements privés par rapport au système public. Ce sont d'abord des établissements privés qui ont émergé. Et ce n'est que petit à petit que les systèmes publics se sont développés et sont venus compléter le système d'enseignement supérieur. Donc l'existence de ces boards qui étaient là aussi pour essayer de trouver des fonds déjà à l'époque, pour essayer d'impulser aussi une réflexion sur l'établissement, ont été un petit peu reproduits ensuite sur les systèmes publics, et c'est devenu quelque chose de tout à fait normal d'avoir ces instances un petit peu extérieures à l'université qui interviennent dans le pilotage de l'établissement.
Mais il y a une chose très intéressante en cela et très différente de ce que nous connaissons en France, car évidemment ces boards, en particulier pour les collèges qui doivent leur existence à des communautés religieuses, ces boards ont été totalement sécularisés au fil des décennies, cela va de soi, mais il reste que leur constitution, enfin en tout cas pour les universités qui n'ont pas qui n'ont plus d'affiliation religieuse explicite, mais il reste que leur existence même témoigne de cette volonté d'inscrire l'entité universitaire dans la société. Nous ne connaissons absolument pas l'équivalent en France.
Non, et nous ne sommes pas les seuls. On retrouve un petit peu ce modèle-là en Grande-Bretagne où on parle de shared governance, mais on ne le retrouve pas dans les autres, disons, en Europe continentale. Petit à petit, on est venu dans certains pays à aussi développer ce type de board. Ça a été instauré en Allemagne au milieu des années 90 avec des formules très différentes d'un land à l'autre. Ça a été aussi mis en place aux Pays-Bas. Donc on a copié un petit peu dans certains pays l'idée de ces boards qui permettent justement la relation avec les parties prenantes,
on dit
aujourd'hui.
Mais n'est-ce pas artificiel?
Voilà, exactement.
On peut créer un board autour de la Sorbonne avec les PDG des plus grandes entreprises françaises. Mais qu'est-ce qui le justifierait? La société ne joue aucun rôle dans le financement des universités en France aujourd'hui. Il n'y a donc aucune raison. Rien ne pourrait fonder en légitimité le pouvoir de supervision que des entreprises, par exemple, ou d'autres institutions auraient à l'égard des universités.
C'est ce qu'on constate très souvent dans les boards qui ont été créés effectivement dans les autres pays. Ils ont du mal à trouver véritablement un rôle à jouer. Ils sont souvent contestés. En Allemagne, dans certains Länder, ces boards sont chargés de recruter les présidents d'universités, de les choisir. Et je connais plusieurs cas où les présidents ans ont été refusés par la communauté académique. Alors on peut se dire qu'en même temps, c'est très sain qu'il y ait un pouvoir académique et un pouvoir managérial, entre guillemets. C'est aussi ce qui fait la force des établissements aux États-Unis, à mon avis.
Mais bon, il a fallu deux siècles pour construire cela.
Ça ne se construit pas du jour au lendemain. Il ne suffit pas de créer un board pour
obtenir... Ça s'enracine dans une toute autre culture. Ouais. Alors, les universités, la transformation des collèges les plus fameux en universités se fait à la fin du 19e siècle. Enfin, Harvard, Yale d'abord, Harvard ensuite en 1870. Les universités publiques, elles sont créées plus tard, au 19e siècle.
Oui, ça paraît après les universités privées. Et déjà, à la fin du 19e siècle, quand le modèle allemand va être importé aux États-Unis, ce sont les universités privées qui sont les leaders finalement de cette transposition du modèle allemand au modèle américain et qui va finalement générer le système américain tel qu'on le connaît aujourd'hui à partir de cette transposition.
Et la troisième couche donc du système américain, pour reprendre votre expression, c'est-à-dire les community colleges, qui font une formation en 2 ans, ne sont créés encore plus tard.
Encore plus tard, oui.
C'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, oui,
ils connaissent un développement considérable. Mmh. J'ai noté qu'il y en avait plus d'un millier aujourd'hui, alors qu'il n'était que quelques dizaines après la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment, une autre différence majeure de l'université américaine, c'est le lien à l'État, car qui est quasi inexistant, du moins à l'État central, à l'État fédéral. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de ministère de l'enseignement supérieur aux États-Unis.
Non, il y a un département de l'éducation qui a un rôle très important parce qu'il collecte des statistiques sur les établissements américains et il le fait très bien. On trouve beaucoup d'informations qui sont centralisées alors qu'on a un système extrêmement décentralisé dans son organisation qui sont publiées par ce département.
Mais il n'a aucun
rôle dans le pilotage.
Ce n'est en aucune façon une autorité centrale.
Non,
il n'exerce aucune espèce de tutelle sur les établissements, qu'ils soient privés ou publics. Et par ailleurs, aux États-Unis, me semble-t-il, il n'y a pas de tradition universitaire, comme c'était le cas en Grande-Bretagne ou Oxford et Cambridge pendant plusieurs siècles. À vrai dire, presque pendant 7 siècles, ont maintenu une exclusivité radicale sur l'enseignement supérieur et ont créé la tradition de l'enseignement britannique. Aux États-Unis, ça n'a jamais été le cas.
Non.
Il y a toujours une sorte une de création continuée
une grande pluralité d'établissements.
Et rien n'exclurait au fond qu'un établissement nouveau apparaisse et en quelques années devienne extrêmement prestigieux. Ce qui est difficile à imaginer dans d'autres contextes.
Oui, je pense que ça serait difficile même aux États-Unis parce qu'il faut vraiment beaucoup d'argent à un moment donné pour pouvoir arriver au niveau des établissements actuels. C'était certainement plus facile au début du XXe siècle de créer un nouvel établissement et de rentrer dans la concurrence entre les établissements qu'aujourd'hui. Mais rien ne l'empêcherait, effectivement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que effectivement, en Grande-Bretagne, pendant très longtemps, Oxford et Cambridge ont été les deux seuls établissements. Au XIXe siècle, on voit se créer les Red Bricks, qui proposent, elles aussi, de l'enseignement supérieur et permettent quand même déjà une première ouverture. Et le système qui est mis en place à partir de 1919 avec l'UGC, le University Grant Committee, est un système centralisé, mais complètement entre les mains des universités. C'est-à-dire que le gouvernement anglais donne de l'argent à l'UGC. À l'UGC ne siègent que les établissements et les établissements font la répartition entre eux des fonds. Donc on est sur un système qui est complètement autogéré. Et on n'a jamais eu ça aux États-Unis, effectivement. Les établissements ne sont jamais réunis. Alors il y a des associations des universités américaines, mais ces associations, elles font plutôt du lobbying auprès du gouvernement ou auprès des États pour obtenir telle ou telle réglementation, mais elles ne s'occupent absolument pas de la répartition des moyens entre les établissements ou de la gestion des relations entre les établissements. Donc, on voit bien à quel point les deux modèles se sont développés sur des représentations et des modalités de fonctionnement très différentes en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
Alors, parlons d'une chose qui est toujours difficile d'aborder et qui pourtant a joué un rôle considérable pour la création des universités américaines et au-delà pour la création de toutes les universités, c'est le rapport à la religion.
Oui.
Dans tous les établissements universitaires prennent leurs racines dans des institutions contrôlées par l'Église. Si l'université est la création européenne par excellence, celle du XIIIe siècle, c'est bien parce que l'Église avait besoin de ce lieu d'enseignement, qui d'ailleurs, dès qu'il a été créé, a négocié une forme d'indépendance complexe entre les autorités locales, l'Église, l'autorité ecclésiastique locale, l'autorité papale, et du moins pour les pays catholiques, ensuite, et puis évidemment l'autorité de l'État. En France, on connaît ce que ça a donné, malheureusement, à partir du XVIe siècle, une évolution assez désastreuse des universités. Mmh. En Angleterre, ça a été plus complexe parce qu'il y avait plusieurs religions. Ouais. Alors, les presbytériens écossais et les anglicans, et puis aussi les non-conformistes plus tard. Aux États-Unis, il n'y a pas de religion d'État.
Non plus.
Donc comment c'est fabriqué ce lien particulier de l'université à la religion, enfin des collèges à la religion au moment de leur création?
C'est au moment de la création en fait que certains collèges se sont inscrits dans une perspective religieuse particulière et ont développé des établissements qui pouvaient être liés à telle ou telle église. Certains ont mis beaucoup de temps à s'en dégager.
Mais d'autres ne s'en sont pas dégagés et le revendiquent clairement. Il y a des universités juives, il y a des universités catholiques aux États-Unis, qui sont de très grande réputation pour certaines d'entre elles. C'est pas du tout des établissements de second ordre.
Non. Mais là, on retombe sur la question du rapport entre l'État et l'Église, qui est quand même un rapport extrêmement différent entre la France et les États-Unis. Donc, c'est une manière très différente d'articuler le rôle de la religion, et on le retrouve au niveau des établissements universitaires. Quand vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a jamais eu de ministère de l'éducation nationale, enfin de l'enseignement supérieur aux États-Unis, c'est vrai pour les universités, mais c'est aussi vrai pour bien d'autres secteurs aux États-Unis. L'État fédéral joue de manière générale un rôle très différent de celui qu'on peut connaître dans les pays européens. Donc finalement, ce qui se passe sur l'enseignement supérieur américain n'est que le reflet de la société américaine dans son ensemble. On retrouve certaines des caractéristiques qui sont ensuite déclinées sur l'enseignement supérieur. Et le rôle de la religion dans l'enseignement supérieur, il n'est pas différent, je dirais, dans sa relation aux universités, de la religion, enfin de la relation entre la religion et le politique aux États-Unis. On retrouve beaucoup de complémentarité. Et c'est pas spécifique au secteur de l'enseignement supérieur aux États-Unis.
Nous parlons des universités américaines, de leur exemplarité, de leur excellence, qui est souvent prise en modèle pour la réforme des universités françaises. Vous écoutez Questions d'éthique sur France Culture et mon invité est Christine Musselin. Revenons à la comparaison entre universités privées et universités publiques aux États-Unis. Le budget d'une université privée se compose pour une large part des revenus de son capital,
oui.
Qui pour certaines universités est colossal, c'est-à-dire qu'il est accumulé depuis plusieurs siècles. Il se compose pour une autre part des droits d'inscription qui sont élevés, pour les étudiants en tout cas qui peuvent payer, et puis aussi des contrats de recherche, c'est-à-dire essentiellement d'argent fédéral attribué au financement des projets de recherche. Est-ce que cette diversité de sources de financement donne une véritable indépendance? Quelle sorte d'autonomie et d'indépendance cette diversité de sources de financement donne à l'université privée? Et quelle liberté a-t-elle de développer des programmes de recherche, y compris dans des disciplines qui ne sont pas du tout des disciplines considérées comme financièrement ou commercialement rémunératrices?
La situation financière des universités aux États-Unis est un élément absolument déterminant de leur développement. Quand il y a quelques années, j'ai travaillé sur le recrutement des historiens et des mathématiciens dans des universités privées américaines. J'avais le cas d'une université qui était dans une situation financière difficile et le cas d'une université qui, manifestement, n'avait pas ce type de préoccupation. Il est certain que les décisions de recrutement, de réoccupation des postes, de création de postes, étaient très nettement affectées par ce type de préoccupations et de problèmes. Les possibilités d'action pour essayer d'améliorer la situation financière, même quand il y a une diversité de financement, ne sont pas non plus extrêmement faciles à mobiliser. C'est-à-dire que on peut toujours augmenter les droits d'inscription, mais ça ne va faire rentrer qu'une partie des financements. Le moyen certainement le plus sûr pour essayer d'améliorer sa situation, c'est de répondre à des appels d'offres, mais on n'est jamais sûr de la réussite de ces appels d'offres. Donc, c'est vrai qu'il y a une diversité de financement, mais les modalités d'action ne sont pas extrêmement simples pour agir sur ces différents sur ces différentes sources, ou même pour jouer les unes avec les autres. Hein, vous voyez, le seul L'activité principale d'un président d'université aux États-Unis, en particulier dans les universités de recherche, ça va être justement d'essayer de trouver des fonds. Donc, il s'occupe beaucoup moins du fonctionnement interne de son établissement que d'essayer de trouver des sources de financement, d'essayer de convaincre des anciens étudiants, des alumni, de verser effectivement, d'abonder le capital de l'université. Et c'est plutôt de ce côté-là qu'il y a des marges de manœuvre, plutôt que du côté des grants ou du côté des
droits d'inscription. Mais il y a quand même ce coussin de sécurité que fournit l'assurance des retours du capital. Parce que quand
tout va bien.
Une université comme Harvard un capital, je crois, de plusieurs...
Alors, je ne sais pas combien
14
ils en sont,
milliards
parce que
de dollars.
Oui, mais c'était beaucoup plus il y a deux ans.
Oui, mais ces universités, milliards. Pour la plupart, se sont considérablement enrichies dans la décennie qui vient de s'achever. Oui. Elles ont été aussi tout à fait frappées par la crise qui s'est amorcée en 2007. Mais donc, quelles ressources a une université pour affronter des crises financières de ce type, car une université dépense beaucoup pour des bourses et pour permettre à des étudiants qui n'ont pas les moyens de payer leur scolarité de pouvoir accéder à l'université. Ouais. Donc lorsqu'une université privée est en difficulté, d'ailleurs cela vaut dans une certaine mesure pour une université publique, que fait-elle? Sur quoi exerce-t-elle? Sur quoi applique-t-elle des coupes? Sur les programmes, sur les départements, sur le nombre d'étudiants recrutés avec bourse?
Ce que j'ai pu voir au cours de l'an passé, c'est surtout sur les recrutements. Donc les décisions de recrutement ont été gelées, on n'a pas recruté, il n'y a pas eu d'augmentation des salaires, il y a parfois même eu diminution des salaires dans certains établissements. C'est donc plutôt sur la gestion du personnel qu'on est intervenu. Je ne connais pas, mais je n'ai pas la prétention de connaître ce qui s'est passé dans tous les établissements américains, je ne connais pas d'établissement qui ait décidé de fermer une formation du fait de la crise. Parlons uniquement des universités de recherche, parce que ce sont surtout celles-là qui ont ce type de vision de l'établissement des universités qui est suffisamment large et universelle pour refuser justement de fermer des formations qui attirent moins d'étudiants. Dans un des établissements que j'avais étudié, il avait été décidé de réduire le nombre de doctorants en histoire parce qu'on se rendait bien compte qu'on avait du mal effectivement à les placer sur le marché du travail universitaire. Mais en même temps, on continuait à recruter des professeurs qui avaient des qualités particulières en matière scientifique parce qu'on pensait qu'il était fondamental d'avoir un très bon département d'histoire dans une université de recherche. On ne pouvait pas concevoir une université de recherche sans un département d'histoire ou sans un département de philosophie. Donc on réduit bien sûr la taille de ces départements. On va essayer d'ajuster le nombre de docteurs que l'on prépare au marché universitaire, mais on ne va pas fermer ces départements parce qu'on considère que ça fait partie de l'essence même de ce qu'est une institution universitaire.
Alors, il va de soi que ces universités privées sont des universités, pour la plupart d'entre elles, non-profit.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'elles sont privées, mais elles ne sont pas censées faire du profit. Elles sont censées réutiliser tout ce qu'elles gagnent, si on peut dire, soit pour augmenter leur capital, soit pour financer de nouvelles œuvres universitaires. Mm-hmm. Il existe aussi des universités privées qui font du profit.
Tout à fait.
Quel genre de profit?
On pense immédiatement à l'université de Phoenix, par exemple, qui propose des cours à distance, surtout des cours en ligne.
Avec des activités fortement payantes.
C'est uniquement de l'enseignement. Pas toujours avec des diplômes à la sortie de l'enseignement. Enfin, il y a des modules qui ne débouchent pas nécessairement sur une certification, mais on vend les modules et donc à partir de là, on peut effectivement gagner de l'argent en proposant des modules de formation continue qui se vendent dans le monde entier puisque c'est dans l'enseignement en ligne.
Et à quoi servent ces profits de l'université? Elle les utilise pour son développement également.
Là, on a des actionnaires qui bénéficient des profits de l'établissement. On est vraiment sur un modèle d'entreprise dans ce cas-là. En fait,
c'est une entreprise.
C'est l'industrie de la formation. C'est
donc,
une fabrique d'enseignement.
Lorsque, là encore, on entend souvent en France parler de privatisation de l'université, de transformation de l'université en entreprise, il faut tout de même garder à l'esprit que les universités privées américaines ne font pas de profit. Ce ne sont pas des entreprises précisément. Elles ont délibérément décidé, quoique privées et quoique se servant de tous les phénomènes du marché, y compris la concurrence constamment entretenue, elles ne sont pas pour autant des entités destinées à faire du profit. Non. Donc elles se distinguent radicalement de ce qu'est l'entreprise.
Ah, tout à fait. Et comme je le disais précédemment, elles estiment avoir une mission publique à remplir pour la société. Donc elles ne sont pas des universités publiques au sens où elles n'ont pas de rapport avec l'État dont elles dépendent, où elles se situent plus exactement. Mais elles considèrent qu'elles ont une mission publique. Et leur mission publique, c'est de conserver des départements justement dans des disciplines qui font partie de l'esprit de l'université, de la mission des universités, mais qui ne sont pas nécessairement en développement en termes d'étudiants.
Alors pour les universités publiques, c'est-à-dire des universités qui dépendent de l'État, prenons la Californie, voilà, un État qui fut extrêmement riche, qui traverse une grave crise financière, mais qui abrite dans son système public, l'Université de Californie, plusieurs établissements extrêmement prestigieux.
Tout à fait, oui.
Berkeley, le plus ancien, ayant ouvert un campus annexe à Los Angeles, qui est ensuite devenu UCLA, une université d'un très grand prestige, et puis Santa Barbara, Santa Cruz, jusqu'au moins connu de l'université de Californie. Comment des universités comme celle-là réagissent-elles à une période de grave tension sur les finances de l'État californien ?
Que ce soit lors de cette crise ou bien lors des précédentes, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des crises budgétaires de certains États publics aux États-Unis, en général, on observe une augmentation des droits d'inscription. C'est-à-dire que ça, c'est une tendance extrêmement stable au cours des 30 dernières années. On voit très bien que les droits d'inscription des universités américaines publiques sont tout à fait indexés au déficit budgétaire des États. Donc, il y aura certainement une augmentation des droits d'inscription. Et puis, comme je le disais précédemment, on reporte plus tard certains recrutements, parce qu'un recrutement coûte très cher aux États-Unis. On recrute plus de professeurs sur des postes à durée déterminée sans possibilité de tenure track et on diminue le nombre de postes donnant accès à la tenure. On renonce à certains projets. Voilà, c'est...
Alors, vous avez parlé de tenure, c'est en effet une caractéristique du système américain. Lorsqu'on entre dans une université, on ne devient pas un fonctionnaire, c'est-à-dire on n'a pas de certitude d'être employé par cette université.
Même dans les universités publiques, on ne devient jamais fonctionnaire,
même dans les universités publiques. On est dans des postes qui sont d'abord relativement précaires, à contrat déterminé, on pourrait dire, et qui se transforment en contrat à durée indéterminée une fois qu'on a acquis cette fameuse tenure. Alors, on compare souvent le statut des professeurs d'université en Europe, et, disons en France, et le statut des professeurs d'université aux États-Unis. D'abord, la grande différence, c'est que les uns sont fonctionnaires en France, les autres pas du tout. C'est même étonnant pour nos collègues américains d'apprendre que les professeurs d'université, et parmi les plus grands et les plus grands chercheurs ayant obtenu les plus grandes distinctions internationales, sont des fonctionnaires. Ça, c'est une chose qu'un Américain a beaucoup de difficultés à comprendre. Peut-on dire que pour autant le statut des professeurs d'université américains est moins enviable que celui des professeurs d'université français?
Pourquoi serait-il moins enviable? Parce qu'ils ne sont pas fonctionnaires
C'est-à-dire que l'universitaire américain est vraiment très engagé dans la vie de son université. Il en défend constamment la cause, d'une certaine manière.
Oui,
il est presque un actionnaire non rémunéré, mais un actionnaire, comme on dit aujourd'hui, non pas un shareholder, mais un stakeholder de l'université. Il est vrai que la loi d'autonomie de 2007 risque de changer les choses en France, mais peut-on dire que le professeur d'université français se sent employé par son université? Ne se sent-il pas plutôt membre de l'ensemble centralisé de l'enseignement supérieur français?
Oui, il est membre de la communauté universitaire, mais je crois qu'on a toujours un petit peu la double appartenance, y compris aux États-Unis. C'est-à-dire que je crois que vous avez tout à fait raison de souligner qu'il y a une très forte appartenance des professeurs américains à leur institution, alors que très souvent, ils peuvent la quitter plusieurs fois au cours de leur carrière. Donc, ils retrouvent cet attachement à l'institution qui suit, pratiquement à l'identique à celui qu'ils avaient dans l'institution précédente. Mais il y a quand même toujours l'attachement disciplinaire qui est aussi extrêmement important. Il y a un rôle très important des associations professionnelles.
Elles sont nationales. Alors, les universitaires appartiennent à l'université, mais les associations professionnelles sont clairement nationales.
Elles sont l'ensemble du pays. Oui. Elles se réunissent une fois par an. Elles jouent un rôle très important dans le repérage des futurs talents, éventuellement dans les recrutements, puisque c'est à ce moment-là que, dans les sous-sols en général de l'hôtel où se déroule la conférence annuelle de telle ou telle discipline, se passent des rencontres entre des établissements et de futurs candidats qui viennent un petit peu voir ce qu'on peut leur offrir, etc. Donc, ça joue. Enfin, l'association professionnelle joue un rôle très important.
Mais elle organise le marché, d'une certaine façon. La compétition entre les professeurs, ça n'a rien à voir avec le conseil, et elle le régule.
Voilà, puisque quand vous allez sur le site de l'Association américaine de sociologie, on vous explique comment vous préparez un job talk, c'est-à-dire le séminaire que vous allez donner dans l'université si vous avez la chance d'être invité pour une audition. Donc, il y a un rôle très important de ces professions. Donc, on a à la fois une appartenance disciplinaire qui est forte et des associations professionnelles qui sont extrêmement vivantes et actives, y compris sur le contenu des enseignements. C'est aussi à ce niveau-là qu'on va avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'enseigner telle discipline, etc. Et puis, de l'autre, vous avez une appartenance institutionnelle qui est, elle aussi, tout à fait forte. Et je crois qu'on ne faut peut-être pas trop les opposer, finalement. C'est peut-être la complémentarité entre les deux qui fait aussi la force des universitaires américains.
Et qui donne un prix considérable au recrutement d'un professeur par une université.
Voilà.
C'est vraiment l'événement par lequel se concrétise la stratégie de l'université.
Et ça, dès le premier poste. C'est-à-dire que dès qu'on est sur un poste on tenure track, donc comme vous l'expliquiez précédemment, c'est un poste qui vous... En fait, un CDD pour 3 ans, renouvelable 3 ans. Et au bout de ces 6 ans, vous aurez ou non accès à la tenure, qui est un emploi quand même quasi permanent. C'est très difficile de mettre à la porte un professeur qui a la tenure. Mais dès le premier poste on tenure track, on considère que vous faites partie de cette communauté. C'est-à-dire que très curieusement, vous êtes à la fois temporaire et en même temps, vous êtes véritablement considéré comme faisant partie de la communauté. D'ailleurs, on vous appelle professeur à ce moment-là. Alors qu'on n'utilise pas ce terme pour les adjuncts ou pour les part-time qui ne font pas partie de cette filière noble de la tenure.
Alors, nous avons beaucoup insisté, Christine Musselin, sur le lien des universités américaines à la société, qu'elles soient privées ou publiques. Elles sont extrêmement soucieuses de l'insertion professionnelle de leurs étudiants gradués, surtout des graduate students. Elles sont très soucieuses de l'environnement économique, de répondre aux besoins de l'économie et aux besoins de la société. Et d'une certaine façon, cela nous ramène à l'histoire. Quel modèle de formation, et en particulier, quel modèle de formation de l'étudiant undergradué, enfin undergraduate, c'est-à-dire l'étudiant de premier cycle, disons jusqu'au master, a prévalu lors de la création des premiers collèges, parce qu'il semble que ce qui distingue le modèle de formation de l'étudiant de premier cycle aux États-Unis, ce qui le distingue par exemple du modèle de formation qui a été affiché par les universités allemandes lors de leur refondation au début du XIXe siècle, c'est plutôt un modèle de formation généraliste où il faut former un bon esprit sans exigence de connaissances extrêmement approfondies ou extrêmement précises, mais un esprit bien adapté à la société, dans le sens noble du terme, et un esprit capable de bien raisonner et d'assumer des responsabilités qui sont celles de la communauté. Est-ce que ce modèle de la formation d'étudiants de premier cycle, qui est si caractéristique du modèle américain, est encore présent aujourd'hui dans toutes les universités, dans certaines universités, qu'en est-il ?
Non, il est présent, je pense, dans toutes les universités. Encore une fois, c'est difficile de généraliser sur l'ensemble du système alors qu'il est si différencié. Mais l'idée que quand on rentre à l'université, on ne va pas tout de suite se spécialiser sur une discipline ou sur une profession donnée reste le modèle dominant aux États-Unis. C'est ce qui explique d'ailleurs peut-être la meilleure survie, finalement, des disciplines un peu littéraires, un peu rare, puisqu'on considère que ça fait partie de la formation de base qu'on doit acquérir à l'université. Moi, j'étais toujours frappée, toujours en travaillant sur mes historiens, sur le fait qu'on demandait aux historiens qui étaient recrutés d'enseigner beaucoup en premier cycle, parce qu'on considère que l'histoire, ça fait partie des fondamentaux que doivent acquérir.
Mais c'est le modèle...
Ça permet de garder les départements.
Mais c'est le modèle de ce qu'on a appelé longtemps la liberal education.
Oui, tout à fait.
L'éducation libérale, au sens culturel et quasi moral du terme libéral, mais la transformation des curriculums, enfin des cursus d'enseignement, des auteurs de référence aux États-Unis, qui a tout de même été un des mouvements de fond du monde académique américain il y a une quinzaine d'années maintenant, a-t-elle transformé cet idéal de l'éducation libérale, qui était quand même très centré sur la tradition occidentale et sur le corpus des œuvres qui étaient ainsi transmises?
Oui, alors là, il faudrait rentrer dans le contenu des programmes, et je dois dire que je n'ai pas une connaissance suffisamment fine des contenus des programmes pour pouvoir répondre à votre question, mais il est certain qu'il y a eu une ouverture sur d'autres d'autres sources, sur d'autres références dans les universités américaines. On voit très bien l'influence d'auteurs qui n'étaient pas auparavant présents, ou bien le fait que, toujours pour reprendre les départements d'histoire, on va actuellement, on a un développement de l'histoire de l'Asie ou des pays d'Amérique latine.
Il s'agit d'un élargissement
centré sur l'Europe et sur
certes,
les États-Unis.
Donc il s'agit d'un élargissement. Il ne s'agit pas d'une remise en cause, selon vous, de l'éducation, du modèle encore de l'éducation fois, libérale comme formation de l'esprit, fabriquer un honnête homme capable d'évoluer dans tous les milieux professionnels,
les références
sociaux, culturels.
Mais pas le modèle.
Pas le modèle. Et par ailleurs, une des caractéristiques de l'université américaine, et la vie de campus y est tout à fait fondamentale, c'est une sorte de culture de collège, c'est-à-dire la vie commune des étudiants, l'importance des fraternités, des clubs, de tout ce qui organise la vie sociale des étudiants à l'intérieur même du campus et qui crée, et qui est au fond un des éléments de cette éducation libérale.
Oui.
C'est le cas,
c'est bien
Christine Husslin.
Oui, c'est toujours le cas. Je pense que c'est quelque chose qui est effectivement très important. Le fait que les étudiants très souvent étudient assez loin de leur famille, finalement. Donc, ils sont plus rapidement coupés de leur milieu familial que les étudiants français. Ça les amène aussi à développer d'autres formes de sociabilité. Et puis, les choses sont beaucoup plus organisées sur le campus. Ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut connaître dans des grandes écoles en France, avec des tas d'activités qui sont proposées, des associations. Et donc, ça permet une insertion beaucoup plus... Enfin, un apprentissage du métier d'étudiant, pour reprendre une expression d'Alain Coulon, qui se fait de manière beaucoup plus facile que quand on est isolé sur un campus, qu'on part et qu'on revient sans faire vraiment connaissance avec les gens avec lesquels on étudie. Quand on habite au même endroit, ce qui est quand même très souvent le cas, puisque la plupart du temps, les étudiants sont obligés de s'installer sur le campus. Voilà, on crée une autre forme de sociabilité et on crée aussi une autre forme d'appartenance à l'institution. C'est peut-être là que commence la fierté que l'on a de l'institution par laquelle on est passé.
Mais la formation des doctorants, donc les graduate studies aux États-Unis, sont-elles conçues dans les plus grandes universités, par exemple comme Harvard ou Yale ou comme Stanford ? Sont-elles conçues comme une sorte de formation professionnelle des futurs professeurs d'université ou des futurs chercheurs, ou sont-elles conçues comme une sorte d'accomplissement, d'achèvement de la formation de cette éducation libérale qui a été donnée dès le premier cycle? Autrement dit, y a-t-il continuité, approfondissement entre le cycle gradué et le cycle non gradué, ou alors change-t-on vraiment d'orientation?
Moi, je pense qu'on change d'orientation entre le undergraduate et graduate studies, parce que à partir du moment où on a terminé son bachelor, on rentre véritablement dans une logique professionnelle. Alors,
professionnelle
au sens...
soit de professeur, soit
voilà,
de chercheur.
Soit de chercheur, ou bien tout simplement professionnel. Si on rentre à l'école de droit, c'est pour devenir avocat. Si on rentre à l'école de médecine, c'est pour devenir médecin. Les écoles qui organisent les études après le bachelor sont, elles, orientées vers des professions. Donc là, on change véritablement et on se spécialise aussi sur des disciplines à partir de ce moment-là. Donc il y a véritablement un changement de philosophie dans les cursus entre le niveau premier cycle et le niveau post-premier cycle, qu'on retrouve après dans les doctorats.
Merci Christine Husslin pour cette discussion. Merci à Midia Portis-Guérin qui était à la réalisation. Merci à Jean Frédérix qui se trouvait à la technique. Merci à Anne-Catherine Lechard. À lundi prochain, 21h si vous le voulez bien. D'ici là, bonne semaine à tous. Demain, vous retrouverez Les Racines du Ciel avec Frédéric Lenoir qui vous parlera de la méditation. À lundi prochain.